Bonjour à tous. C'est super d'être avec vous. Bon, les orateurs commencent toujours par dire « Ah, c'est génial d'être avec vous ». Je suis content de pouvoir aborder la question de l'islam avec vous. J'espère que vous avez de bons sièges et puis un bon coussin. Parce qu'on a dit que la première session, elle allait durer 1 heure et quart. 1 heure et quart. Vous vous rendez compte le supplice. Voilà, on a été aussi en Hollande. Mon frère Philippe a oublié de le signaler, mais c'est pas grave. Voilà, et c'est vrai, depuis 2004, je me suis concentré sur l'islam. J'ai travaillé pour deux missions auparavant, pour la CIM et pour une mission qui s'appelle Christian International Associates, qui implante des églises en Europe. Mais en 2004, j'ai eu la conviction de quitter cette mission et j'ai pris contact avec le secrétaire de l'Alliance évangélique en lui disant « Écoute, je suis disponible, j'aimerais vraiment développer un ministère au profit des églises. » Puis on a réfléchi un petit peu, on s'est dit « Mais de quoi est-ce que l'église a actuellement besoin ?» Et il y a deux sujets qui sont ressortis, c'est la postmodernité et puis l'islam. Et au début, j'étais censé porter les deux casquettes. Et au bout de très très vite, je lui ai dit « Écoute, mission impossible, totalement impossible. » L'islam, ce n'est pas une petite affaire, c'est 14 siècles d'histoire. C'est trop compliqué, il y a beaucoup trop. Et on ne peut pas se permettre de rester dans les généralités alors que l'islam est si présent et pose des problèmes très compliqués quand même en Occident à beaucoup de gens. Donc il a dit, ok, vas-y, développe quelque chose au niveau de l'islam. Et donc en fin 2004, début 2005, on a lancé un groupe de travail sur l'islam dans le cadre du réseau évangélique. Et puis, donc on a rassemblé 7-8 personnes qui toutes appartenaient à des missions, travaillant parmi les musulmans, OM, Campus, on n'avait pas la CIM, on avait Frontiers et d'autres. Et le but, c'était apporter une information sur l'islam et des formations sur l'islam dans les églises pour encourager les croyants à aborder les musulmans sans crainte, sans complexe, avec la grâce de Dieu, avec l'assurance que l'Évangile répond vraiment à leurs besoins aussi, même si eux disent qu'ils ont déjà toutes les réponses. Et en 2011, on a lancé un deuxième groupe de travail qui s'appelle l'Institut pour les questions relatives à l'islam. Vous trouverez des cartes de visite sur la table. C'est un institut qui se manifeste à travers un site, icri.org, et qui là fait paraître des articles qui sont écrits par différentes personnes sur des questions que soulève l'islam, qui peuvent être des questions d'ordre théologique ou d'ordre sociologique, politique, etc. Donc nous disons clairement que nous sommes un groupe de travail évangélique, chrétien évangélique protestant, mais on essaye d'apporter une information de qualité sur ces différentes questions et on n'essaye pas d'évangéliser, on essaye d'informer. Le but de ce site n'est pas d'évangéliser, mais de donner un point de vue chrétien sur les problèmes que soulève l'islam. Voilà un petit peu pour les présentations. Alors, on a prévu trois thèmes cet après-midi. Le premier, c'est, on va survoler un petit peu l'histoire de l'islam, comment l'islam est né, dans quel contexte. Et puis ensuite, on abordera ce que sont les croyances fondamentales des musulmans. Qu'est-ce qu'ils croient et qu'est-ce qu'ils pratiquent. Dans une deuxième partie, on abordera les objections que l'islam fait à la foi chrétienne. Et puis en troisième partie, on se posera la question, est-ce que l'islam est actuellement en crise? Alors, on aborde la première partie et je vais, voyons si je le trouve. Voilà, bon, on y voit à peu près clair, ça va. Alors, si vous voulez avoir un ministère ou simplement discuter avec les musulmans de manière un petit peu... Ça marche là, il y a un drôle de... Bon, c'est moi qui dois m'habituer alors. Il faut une certaine connaissance de base, en tout cas c'est ma conviction. Il y a des gens, il y a des musulmans qui se sont convertis parce que des chrétiens leur ont manifesté de l'amour, et ça reste toujours essentiel. Mais si vous avez des contacts réguliers avec les musulmans, si vous devez réfléchir à ce qui se passe dans l'actualité, vous avez franchement besoin de comprendre un petit peu d'où viennent les musulmans et qu'est-ce qu'ils croient. Alors, l'islam est né Au 7e siècle, dans la péninsule arabique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite. Comme vous le voyez sur cette carte, à cette époque-là, 6e, 7e siècle, vous avez un grand empire ici, l'Empire byzantin. En fait, c'est ce qui reste de l'Empire romain, parce qu'à l'ouest, il n'y a plus d'Empire romain. Mais il y a un empire d'Orient, qu'on appelle l'Empire byzantin. Et de l'autre côté, ici, vous avez l'Empire sassanide, qui est un empire perse. Et depuis à peu près 250 ans, presque 300 ans, ces deux empires se rentrent dedans, avec cette frontière ici. Ils sont en lutte perpétuelle l'un avec l'autre. À cette époque, comme vous le voyez sur la carte, La Mecque est déjà une ville, déjà connue. C'est un centre commercial, c'est un centre aussi de, comment dire, un lieu de pèlerinage, déjà à cette époque-là, un lieu de pèlerinage païen. Et puis vous avez Médine, qui est une ville qui deviendra célèbre à cause de la migration de Mohammed à Médine. Vous avez ici sur la carte aussi les différentes routes caravanières. Bon, c'est pas une carte qui est très très détaillée, mais ça vous donne une idée générale. Alors, quand on parle islam, évidemment, on parle religion, et on se demande, mais quel était le contexte religieux à cette époque-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans la péninsule arabique? Eh bien, il y avait la religion des Arabes. Les Arabes, ils avaient une religion. Il n'y a pas de peuple sans religion dans le monde, hein. Donc, ils avaient une religion. Ils étaient animistes pour beaucoup d'entre eux. Maintenant, les auteurs musulmans, lorsqu'ils parlent de la période qui a précédé Mohammed, ils parlent de l'ère de l'ignorance, en disant que c'était une période absolument épouvantable. C'est vrai qu'il y avait de l'animisme, c'est vrai qu'il y avait du polythéisme, mais quand on lit la Bible, on se rend compte que les Arabes étaient en contact. Il y a de nombreux passages de la Bible, au moins une dizaine dans l'Ancien Testament, qui font allusion au contact que les Arabes avaient avec Israël. Par exemple, la visite de la reine de Séba. Séba, c'est le Yémen. Donc elle est venue du Yémen pour rendre visite à Salomon, à Jérusalem. On parle aussi, Néhémie, par exemple. Vous vous souvenez, il parle des opposants à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Il mentionne Sambala, Tobia, les Arabes. Il y avait des Arabes qui étaient hostiles à la réimplantation des Israélites. Et puis, si vous lisez les prophètes d'Israël, ils font mention jusque dans le livre des Actes, à la Pentecôte. À la Pentecôte, Luc signale qu'il y a des Arabes qui ont entendu dans leur propre langue parler des choses merveilleuses que Dieu avait accomplies. Donc, c'était l'ère de l'ignorance, mais n'empêche que la péninsule arabique n'est pas une île sans aucun contact. Elle a eu des contacts avec les Israélites déjà. Ce qu'on peut dire de manière un petit peu plus précise, c'est que sur cette péninsule arabique, il y a une présence juive, essentiellement dans cette ville de Médine, qui à cette époque-là s'appelle Yathrib. Et ces Juifs, ils sont venus s'installer ici après la dispersion dans les années 70. Vous savez, le temple a été détruit et beaucoup de Juifs, ça a été la diaspora. Et un certain nombre d'entre eux sont venus s'installer à Médine. Ils sont des gens assez estimés. Ce sont des commerçants prospères, ils sont agriculteurs, ils pratiquent la forge, ils fabriquent des armes. Ils ont leur propre quartier dans cette ville. Et puis surtout, ils sont connus comme le peuple élu. Et ils sont très conscients d'être le peuple élu et de posséder un livre sacré. Ça, c'est une chose qui va titiller Mohammed. Mohammed, il va se dire, mais nous, peuple arabe, on doit aussi avoir notre livre qui vient de Dieu. À côté de cette présence du judaïsme, il y a aussi des chrétiens. Il y a aussi des chrétiens. Là, je vais essayer de trouver une carte qui est un peu explicite. Voyons, peut-être celle-là. Ouais. On va essayer de faire un peu plus grand, si ça marche. Oh là, merveille technique. Alors, les chrétiens, ils se trouvent dans trois endroits particuliers. Il y a trois foyers. Vous voyez là, les Hassanides, c'est une tribu arabe chrétienne. Tribu arabe chrétienne. Si vous regardez dans le détail de la théologie, c'est un petit peu. Parce que ce sont des. Ah, j'oublie maintenant. C'est un groupe, j'oublie le terme, ils sont pas orthodoxes, ils sont monophysites. Ils disent, dans la personne de Christ, il y a une seule personne, il n'y en a pas deux, comme dit la doctrine orthodoxe. Et bien qu'ils soient monophysites et que l'Empire byzantin est orthodoxe, le roi byzantin trouve qu'ils sont très utiles pour essayer de stopper l'avancée des Bédouins et aussi l'avancée de l'Empire de Perse. Donc il y a les Hassanides ici. Et puis il y a un autre groupe chrétien, ou une autre tribu qui s'appelle les Lachmides, qui sont également chrétiens, mais qui sont nestoriens. C'est une autre tendance théologique. Et alors, la Perse leur demande aussi de contrôler les tribus arabes, parce que les Perses ne veulent pas être envahis par les tribus arabes. Donc, vous voyez, ces deux états tampons, en fait, sont des chrétiens. Et puis, vous avez en bas, au Yémen, aussi un regroupement de chrétiens qui bénéficie de l'apport de l'empire d'Aksum, ici, ou de la royauté, plutôt, royauté d'Aksum, qui était chrétienne et qui avait une influence sur le sud du Yémen. Donc, il y a des chrétiens en péninsule arabique. Ça, c'est une chose souvent qui est pas connue. Malheureusement, le christianisme que Mohammed va rencontrer, c'est pas un christianisme qui a une identité très claire. Ah, excusez-moi, je m'embrouille là avec cette machine. Il faut juste déplacer ça. Hop, on le met au placard. Mohammed, il a rencontré des chrétiens, donc, mais l'image que le christianisme donne de lui-même à cette époque est très brouillée. Parce que l'Église a été en conflit théologique pendant les deux siècles qui ont précédé. Et donc, lui, il a eu contact en tant que commerçant, il a eu contact avec des monophysites, avec des nestoriens, probablement avec des orthodoxes. Plus toutes sortes d'autres sectes, des gens qui avaient des croyances bizarres. Et donc, lui, il n'a pas été exposé, si on utilise les termes d'aujourd'hui, il n'a pas été exposé à une prédication biblique de l'Évangile, très très convaincante. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait été exposé à ces différentes influences, ça apparaît dans le Coran, parce que le Coran récupère toutes sortes de traditions, d'affirmations, d'enseignements, etc., divers. Et puis, Mohammed a, en quelque sorte, été influencé par ces différents enseignements, sans distinguer ce qui appartenait à la tradition et ce qui était vraiment révélé. Alors, ce que je voudrais dire maintenant concernant Mohammed, quelques notes biographiques, mais avant cela, quand vous parlez de Mohammed, vous en êtes probablement déjà rendu compte, pour les musulmans, Mohammed est le personnage qui est au-dessus de tous. Il est le plus grand des modèles. Il incarne toutes les vertus qu'une personne peut avoir. C'est-à-dire qu'ils ont une vision totalement idéalisée du personnage. Totalement idéalisée, parce que même le Coran ne dit pas que Mohammed était sans péché. Mais les musulmans aujourd'hui, certains sont convaincus qu'il était sans péché. Donc il y a eu au fil du temps une sorte de mystique, d'image irréelle qui s'est développée au sein de l'islam. Alors Mohammed, il est né, on va essayer de sortir une... Il est né à la Mecque, voilà, il est né en 570, selon la tradition islamique. Hein. Tout ce que je vais dire est selon la tradition islamique. Il est né en 570, il est orphelin de père avant sa naissance, il perd son père. Il devient orphelin de mère à 6 ans. Il sera donc, comme ça arrive très souvent à cette époque et dans ce contexte-là, éduqué par son grand-père et son oncle, qui s'appelle Abu Talib. D'abord, il est un petit berger, et puis dès l'âge de 12 ans, il accompagne son oncle dans ses voyages d'affaires jusqu'en Syrie. Alors, là, est-ce que Mohammed était lettré ou pas? C'est le grand débat. Certains pensent qu'il était probablement lettré, parce que beaucoup de gens de la Mecque étaient lettrés, mais les musulmans, généralement, ils préfèrent dire que Mohammed était illettré. Comme ça, ça leur permet d'affirmer le Coran qui a été révélé par Mohammed n'est pas ce qu'il a écrit lui-même, c'est quelque chose qui a vraiment été donné par Dieu à lui. Mohammed se marie à l'âge de 25 ans, il épouse une riche commerçante qui s'appelle Khadija. Vous avez peut-être des voisines qui s'appellent Khadija. Eh bien, voilà d'où ça vient. C'est Khadija, la première épouse de Mohammed, qui est de 15 ans son aînée. C'est une femme qui tient la route. Attention, elle est... Et ils ont, semble-t-il, un mariage assez heureux. Ils ont plusieurs enfants. Bon, il y a une seule fille qui survivra. Et puis, vers l'âge de 40 ans, Mohammed commence de prendre l'habitude d'aller méditer dans une grotte qui est dans la proximité de la Mecque, et il cherche Dieu en quelque sorte. Et à son époque, il y avait des gens qui cherchaient le Dieu unique. Donc il n'est pas absolument, je dirais, totalement original dans sa démarche. C'était quelque chose qui avait cours en son temps. Il y avait des hommes qui cherchaient. Et alors qu'il est en méditation dans sa grotte, eh bien, selon la tradition islamique, l'ange Gabriel, à un moment donné, s'est manifesté à lui et l'a appelé, lui a dit « Ikra, récite ce que je vais te révéler ». Et ça a été le point de départ de sa vocation de prophète. En réalité, dans les faits, c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce que la tradition dit qu'après cette première expérience, Mohammed était tellement perturbé, il avait sa crainte, c'est qu'il ait des esprits du désert s'étaient emparés de lui. Donc il va vers sa femme, il a peur, il lui dit, il lui raconte ce qui lui est arrivé. Et c'est sa femme et Ali, son cousin et fils adoptif, qui lui disent, non, 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 ça c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'appelle à être son prophète dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que Khadija était ébionite. Et les ébionites, c'était une secte chrétienne qui a beaucoup de caractéristiques avec l'islam. Ils n'acceptaient pas les lettres de Paul, ils ne croyaient pas, voyons, par rapport à Jésus, je crois qu'ils ne croyaient pas à la divinité de Jésus. Il y avait, on se dit, ça ressemble beaucoup à ce que l'islam enseigne. Donc il y a eu des influences, il y a eu à travers sa femme une certaine influence de l'héritage chrétien sur Mohammed. En 600, donc Mohammed, il va se mettre à prêcher. Et quelle est l'essence, quel est le cœur de sa prédication? Il y a un seul Dieu. Alors que la Mecque a un temple qui s'appelle la Kaaba, dans les murs duquel il y a 360 idoles, Mohammed vient et dit, messieurs, mesdames, j'ai une grande nouvelle pour vous. Il y a un seul Dieu. Vous croyez qu'il a été applaudi? Ils ont dit, à mort, à mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un commerce d'idoles très florissant à la Mecque. Et donc ces gens, c'est comme lorsque Paul a annoncé l'évangile à Éphèse, les gens ont dit, à mort, à mort. On veut plus entendre cet évangile, ça ruine nos affaires. Ben, à la Mecque, c'était la même chose, même problème. Donc à la Mecque, les temps étaient difficiles pour lui. Et en 619, après la mort de sa femme, qui était une femme vraiment puissante, et de son oncle Abu Talib, Mohammed il s'est trouvé sans protection. Alors pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez être seul et ne pas avoir d'appartenance à un clan, à une tribu, etc. Ça vous fait ni chaud ni froid en quelque sorte. Mais dans ce temps-là, c'était grave. Parce que être rejeté par sa tribu et ne pas avoir de tribu pour assurer votre protection, ça voulait dire, si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un vous agresse ou vous tue, les gens, ils se disent, c'est ton problème, nous on n'est pas concernés. Donc Mohammed est dans une situation grave. Et pendant 3 ans, il va aller de ville en ville, furtivement en quelque sorte. Il envoie même certains de ses disciples chercher refuge auprès du roi d'Éthiopie, du roi chrétien d'Éthiopie. Et puis en 622, il se passe quelque chose d'important pour lui, c'est qu'un groupe de convertis qui habitent Yathrib viennent le trouver et lui disent « On a besoin de toi parce que dans notre ville, on a des conflits entre clans et tribus et on n'arrive pas à résoudre les problèmes. On a besoin d'un juge de paix, en quelque sorte, de quelqu'un qui va arbitrer nos différends. Et donc, il accepte d'y aller. Et là, très habilement, il dit, d'accord, j'accepte le deal, mais il faut qu'en contrepartie, vous m'autorisiez à prêcher mon message. Et le deal est conclu. Et donc, Mohammed va s'installer en 622, avec 80 disciples, il se rend à Yathrib. C'est ce que les musulmans appellent l'Égir. C'est à partir de 622 calendrier chrétien. 622 calendrier chrétien, c'est l'an 1 du calendrier musulman, qui est un calendrier, entre parenthèses, lunaire. Donc, ils ont 11 jours de moins que nous, que le calendrier solaire. C'est pour ça que le ramadan n'est jamais à la même date. Ça recule chaque année de 11 jours. Bon, petit détail en passant. Et évidemment que là, tout va changer pour Mohammed. On voit à la Mecque, c'était un homme sans pouvoir, un homme méprisé par les gens de sa propre tribu, qui le regardaient comme une nuisance. Assez rapidement à Médine, en quelques années, il va gagner pouvoir et influence. Il était un saint prédicateur, il devient un guide religieux de toute une communauté. Il était persécuté, il devient le guide suprême des forces armées. Il était simple citoyen, il devient guide politique. Il était pauvre, il devient riche en quelques années. Donc, changement radical de situation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de Mohammed, c'est que dans son esprit, il est convaincu d'être un prophète dans la lignée des prophètes bibliques. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Malheureusement pour lui, les Juifs de Médine disent « un, on te reconnaît pas comme, on te reconnaît pas comme prophète parce que tu n'as aucune preuve à donner que tu es prophète de Dieu. » Parce qu'ils étaient habitués, les prophètes, Moïse, Élie, tous ces gens ont manifesté en certaines situations critiques, ils ont manifesté qu'ils étaient réellement envoyés par Dieu, il y avait des interventions surnaturelles. Et on va juste regarder quelques sourates. Hop là, 14, peut-être qu'on va trouver ici. Regardez ça. Ceux-là même qui ont dit vraiment « Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume. » Ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous rappelle un certain Élie sur le mont Carmel. Alors les Juifs lui disent « Écoute, mon vieux, si tu veux nous persuader que tu es réellement un prophète de Dieu, alors fais ce genre de choses. » Mais Mohammed n'a jamais rien pu faire de cette nature-là. Jamais. Une autre, sourate 6:37. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, un miracle de la part de son Seigneur? Voilà, donc les gens justifient leur incrédulité. Non, tu n'es pas un prophète, tu ne nous le prouves pas, ton message ne suffit pas. Alors la réponse à la longue de Mohammed, ça a été de dire, le miracle de mon ministère, c'est mon message. Parce que personne ne peut imiter ce que je dis. Mais il n'a pas pu dire plus. Et donc, les Juifs qui sont à Yathrib, ils commencent de se faire un peu de soucis. C'était des gens bien implantés dans la ville. Et puis, ils voient ce Mohammed qui est nouvellement arrivé, qui prend de plus en plus d'ascendants politiques sur cette ville. Et ils commencent de se faire du souci. Et ça va amener, comme Mohammed lui-même n'était pas en odeur de sainteté pour les membres de sa tribu qui étaient restés à la Mecque, les Quraïchites, eh bien, il y avait trois tribus juives qui ont établi des contacts avec les Quraïchites parce qu'ils voulaient ralentir Mohammed, pour dire le moins. Et les Quraïchites, ils voulaient carrément lui tordre le cou. Et c'est lorsque Mohammed s'est rendu compte de cela. Alors en 624, il a expulsé les Banu Kunayka, qui est une tribu juive, pour avoir comploté contre lui. L'année suivante, 625, il expulse aussi les Banu Nadir, une autre tribu israélite. Et puis en 627, il accuse les Banu Qurayza d'intelligence avec les Mekwas. Et là, il fait quelque chose qui a fait la une de l'actualité il n'y a pas longtemps. Il fait décapiter 600 hommes et il vend les femmes et les enfants comme esclaves. Vous voyez les gens de l'œil, où est-ce qu'ils trouvent leur inspiration? Et à partir de cette époque, donc, les Juifs et les chrétiens qui vivront dans des régions dominées par les musulmans seront traités de sujets. Dhimmi, c'est le terme technique arabe. Dhimmi, ce sont des protégés, des sujets, et ils sont soumis à une taxe spéciale qui s'appelle la jizya. Et après ce que Mohammed a perçu comme un rejet de la part des Juifs, alors il va commencer d'affirmer sa différence. Avant, il essayait de se couler dans le moule, en quelque sorte, dans la tradition. Et donc, il commence de dire des choses telles que Abraham et Ismaël sont les ancêtres des tribus arabes. Il faut prier, tourner vers la Mecque, et non plus tourner vers Jérusalem comme le faisaient les exilés juifs quand ils étaient à Babylone. Ils priaient, tournés, orientés vers Jérusalem. Mohammed dit, ça c'est fini. Et puis il déclare que la Kaaba, ce gros cube qu'on voit encore aujourd'hui, qui a été reconstruit plusieurs fois, entre parenthèses, hein, il déclare que la Kaaba est un lieu saint, qui a initialement été édifié par Adam. Oula, on remonte loin. Ça a été initialement édifié par Adam et que ça a été reconstruit par Abraham et son fils, donc Ismaël. Et là, vous avez une sourate, la sourate 14, sourate, voyons, où est-ce qu'elle est cette sourate? Voilà. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, c'est la Kaaba, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Donc là, c'est un verset du Coran qui dit, voilà, Abraham et Ismaël ont reconstruit la maison. C'est leur œuvre. Donc Mohammed, son souci, c'est de s'emparer, et c'est très typique dans l'islam, l'islam s'empare des choses dans le judaïsme ou le christianisme et dit, c'est à nous, c'est à nous, ça c'est l'islam. En réalité, c'est pour ça que vous avez un sentiment d'usurpation quand vous lisez, quand vous comprenez ce que l'islam enseigne, vous dites, mais ça vient d'ailleurs, ça. Et c'est, voilà, un aspect de comment l'islam s'est formé. Là, je reste dans les hyper-généralités, hein. Ce n'est pas très technique ce que je dis, mais... Alors, en 624, les adeptes de Mohammed commencent de faire des razzias, comme les tribus bédouines avaient l'habitude d'en faire, parce que c'est bien beau d'être à la tête d'une communauté à Médine, mais les gens du désert, ils ne sont pas agriculteurs. Donc, comment est-ce qu'ils vont vivre? Ben, ils commencent d'attaquer les caravanes, et en particulier si elles viennent de la Mecque. Ils font des razzias, ça leur permet d'assurer la subsistance de la communauté. Et donc il y a plusieurs batailles. Mohammed et les Mekwas s'affrontent, il y a trois guerres. Ici vous voyez la guerre de Badr, d'Uhud, et au fossé. Mohammed a remporté la première, il a perdu la seconde, il a gagné la troisième. Ça, c'est trois des guerres. Et puis, en 628, il signe un traité avec les gens de la Mecque, le traité d'Al-Udhaybiyya. Et ça lui permet, l'année suivante, de faire le pèlerinage à la Mecque. C'est intéressant parce que la Mecque n'était pas encore ce qu'elle allait devenir, hein, mais il fait un pèlerinage à la Mecque. Et puis, au bout de 2 ans, il rompt ce traité qui avait été conclu pour 10 ans. Parce qu'une des tribus alliées aux Quraïchites avait attaqué une tribu alliée à Mohammed. Il a dit, ah, vous avez attaqué une des tribus alliées? Fini. Plus le traité de paix est annulé. En réalité, certains disent, le traité de paix, c'était juste une manière de gagner du temps et de fourbir ses armes. Une fois qu'il a eu assez, il est descendu sur la Mecque avec une armée de 10 000 hommes. Lorsque les Mecquois ont vu ça arriver, ils ont dit « Ouh, là c'est mauvais pour nous ». Et Abou Soufiane, qui était le gouverneur de la Mecque, a jeté le drapeau blanc en quelque sorte. Il s'est converti et Mohammed, grand prince, a amnistié tous les gens, pratiquement tout le monde, de la tribu des Quraïchites. Il a fait détruire toutes les idoles et il a déclaré « La Kaaba, c'est le temple du Dieu ». D'Allah. C'est comme ça. Et il a déclaré que la Mecque était ville fermée aux non-musulmans. Ce que la Mecque est encore aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller à la Mecque et surtout pas, enfin, vous ne pouvez en tout cas pas aller dans l'enceinte de la mosquée qui est le lieu du pèlerinage des musulmans. Voilà, je ne sais pas combien de temps on a. 45 minutes, on a fait à peu près. Qu'est-ce que je vais dire encore concernant Mohammed? L'année suivante, donc en 630, il arrive, il annexe en quelque sorte la Mecque. Et puis l'année suivante, Mohammed entreprend ses premières incursions contre les grandes puissances voisines, c'est-à-dire... Il monte vers le nord et il porte ses attaques dans la région qui constitue la frontière entre l'Empire byzantin, avec l'Empire byzantin, dans ce qui est la Syrie, à peu près la Syrie actuelle. Et en 632, Mohammed meurt. On ne sait pas exactement quelle a été la cause de sa mort, s'il est mort sur le champ de bataille, s'il est mort empoisonné, s'il est mort de maladie, mystère. On ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui va causer un grand problème. C'est que Mohammed n'a pas désigné de successeur. Et là, ça va soulever des problèmes extrêmement graves dans la communauté musulmane parce que les gens ne vont pas être d'accord sur qui est habilité à succéder à Mohammed. Et il y avait deux parties qui se sont constituées. Il y avait le parti de ceux qui disaient « Celui qui doit succéder à Mohammed doit être quelqu'un de sa famille. » Et celui qui était tout désigné pour cela, c'était Ali. Mais les tribus arabes étaient habituées à une autre, ils avaient une autre coutume. Coutume qui était beaucoup plus pragmatique. Pour élire un chef, qui est-ce qu'on cherche? Le plus compétent, le plus courageux, le plus avisé. Et finalement, c'est cette deuxième tendance qui a prévalu. Et donc ça, on verra plus tard que ça a entraîné un schisme énorme. Mais à ce moment-là, ce n'est pas encore le schisme. Et donc Abu Bakr, est désigné, c'était un compagnon du prophète Mohammed, il est désigné comme le premier calife. Il ne va pas rester à la tête de la communauté islamique très longtemps, 3 ans. Mais c'est lui qui va vraiment serrer les boulons. Parce qu'à la mort de Mohammed, certaines des tribus qui avaient été en quelque sorte gagnées un peu par la force, ils ont dit « Mohammed n'est plus là, hop, on retourne à nos affaires ». Et Abu Bakr a dit « Ouhou, surtout pas ». Il a usé de toute la poigne dont il était capable pour retenir ces gens de manière armée et en leur disant « Écoutez messieurs, la conquête de la péninsule n'est pas terminée ». Et donc Abu Bakr a... commencer de poursuivre les incursions en péninsule arabique auprès des autres tribus arabes. D'ailleurs, si on regarde cette carte-là, on voit ça un petit peu. Donc la région, tout ce qui est en vert foncé là, c'est l'expansion à l'époque de Mohammed, du temps de Mohammed jusqu'en 632. Et puis là, tout ce qui est en vert un peu plus clair, C'est de 632 à 634, c'est donc à la période d'Abu Bakr. Et après, ça va encore toujours plus loin, mais très très rapidement. Après Abu Bakr, il y a Omar qui est le deuxième calife, qui va poursuivre l'œuvre, qui lui sera à la tête de la communauté islamique pendant 11 ans. Et il va lancer ses troupes dans trois axes, le Proche-Orient, l'Égypte et l'Afrique du Nord, et puis le monde indien. Le troisième calife, il est spécialement important. Il s'appelle Outhman. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que c'est lui qui a compris qu'il fallait que la prédication de Mohammed soit maintenant regroupée dans un document écrit. C'est lui donc qui a demandé à une sorte de commission, il a nommé une sorte de commission, pour réunir tout ce qu'on pouvait trouver de documents qui rapportaient les prédications de Mohammed et pour en faire une compilation, pour avoir un livre. Parce qu'il se rendait compte que ceux qui avaient été les témoins directs de Mohammed, disparaissaient les uns après les autres. Et comme on dit en Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc ils étaient face à cette urgence. Il faut absolument qu'on conserve la révélation, entre guillemets. Et ils ont travaillé pendant plusieurs années. Et lorsque ce document a été prêt, Outhman a pris une décision absolument historique. Il y avait d'autres recueils qui existaient. Et il a pris ce recueil, il a dit, ça c'est le seul vrai. Brûler tout le reste. Alors, ça peut nous paraître de bonne guerre, hein. Mais du point de vue, quand on réfléchit au niveau de l'inspiration du Coran, alors là, ça commence de poser des problèmes. Parce que, qu'est-ce qui était inspiré? Sur quelle base est-ce que le comité nommé par Outhman a choisi ce qui a été retenu et a rejeté ce qui a été brûlé? Sur quelle base? C'est sur le jugement de cette commission, c'est tout. Vous voyez donc les doutes que ça suggère à propos de la composition du Coran, quand on parle au niveau de l'inspiration. Parce que pour les musulmans, il ne fait aucun doute que le Coran qu'ils ont dans les mains, dont j'ai une toute petite copie ici, ce Coran, c'est l'authentique parole de Dieu révélée à Mohammed. Et en fait, l'ange Gabriel a pris des fragments de la mer du livre qui est auprès de Dieu et les a descendus, pour prendre le terme musulman, à Mohammed qui les a prononcés et c'est ça le résultat. Mais ça, c'est une belle construction. Mais quand on est habitué à raisonner au niveau de l'inspiration biblique, on se dit, il y a quand même quelques problèmes. Mais pour les musulmans, ça ne fait aucun doute. C'est pour ça que quand ils ont entendu dire que des soldats américains urinaient sur ce livre, ça le met dans une rage. Ils pourraient tuer les gens. Parce que vous avez manqué de respect au livre de Dieu. J'étais sur un marché, on faisait de l'évangélisation à Annemasse, il y a un traité avec le nom de Dieu qui est tombé par terre. Je suis tombé sur un salafiste. Il était, mais outré, absolument outré. Le nom de Dieu est par terre, les gens vont marcher dessus. Vous voyez la sensibilité. Donc, ça c'est des parenthèses. Hein. Quand vous tenez le Coran, jamais comme ça, hein, jamais au-dessous de la ceinture. Ça alors, c'est un mépris total pour le livre. Eux, ils emballent le livre, ils le protègent, ils le tiennent respectueusement. Ils ne le mettent pas par terre, ils ne s'assiedent pas dessus. C'est un livre sacré, l'objet lui-même est sacré. Bon, je ferme la parenthèse. C'est juste pour vous dire quelle est la sensibilité. Ensuite, je pense que je vais abréger, parce que sinon on ne va pas pouvoir parler de ce que les musulmans croient et de ce qu'ils pratiquent. Mais après Outhman, il y a eu Ali, celui qui aurait dû être le premier calife. Mais Ali, malheureusement, n'a pas gagné la faveur de la majorité des musulmans. Il a été tué son fils Hussein, a été également tué. Et en fait, les gens qui ont suivi Ali ont constitué un groupe dissident qu'on appelle aujourd'hui les chiites. Et chiite, ça veut dire partisans d'Ali. Et donc le chiisme, il a été adopté à partir du XVIe siècle en Iran, en Irak, etc. Ce sont les grands pays du chiisme. Et ce conflit entre sunnites, les gens de la tradition, et les chiites, les partisans d'Ali, a duré en fait jusqu'à aujourd'hui. On va maintenant aller beaucoup plus vite. Je vais vous juste montrer un tableau. Vous voyez ce grand tableau-là? Donc, Mohammed, on va récapituler. Mohammed, il est né, selon la tradition, en 570. Il est mort en 632. Les califes qui lui ont succédé ont conduit la communauté musulmane de 632 à 661 pendant une trentaine d'années. Ce sont les quatre califes qui sont appelés les califes bien guidés ou les salafistes aujourd'hui. Et en particulier les gens de l'EI. Ils regardent cette période de 30 ans comme l'idéal. Ils aimeraient beaucoup revenir à cette période-là. Et après les quatre premiers califes, il y a eu deux dynasties qui se sont succédées. La dynastie des Omeyyades, dont Damas était la capitale, qui est une dynastie qui a duré à peu près une centaine d'années, un peu moins. Et ensuite la dynastie des Abbasides, qui a eu comme capitale Bagdad. Et la période abbasside, c'est-à-dire 10, 11, 12e siècle, est vraiment l'âge d'or pour l'islam. Cet âge d'or dont beaucoup de musulmans ont la nostalgie aujourd'hui, ceux qui connaissent l'histoire, leur histoire. Et à la fin du 14e siècle, il y a un empire qui a pris la relève, qui est un empire non-arabe, l'empire ottoman, l'empire turc, qui a eu une durée de vie quand même assez considérable, pratiquement 600 ans. À côté de l'empire ottoman, il y a eu des empires plus petits. Il y a eu l'empire safavide en Perse, il y a eu l'empire moghoul en Inde, il y a eu les Molouks, les Mamelouks en Égypte. Mais pour ce qui nous concerne, Européens, l'empire ottoman, c'est ce qui est le plus frappant. Et Atatürk, en 1924, a prononcé la fin du califat ottoman. Et donc, à partir de 1921, mais sauf erreur, c'est 1924. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous avez l'islam dans sa progression dans le monde. Et comment est-ce que l'islam s'est propagé dans le monde ? Par immigration. Ça, c'est le premier facteur. En tout cas, dans la période moderne et récente, c'est l'immigration. C'est la conversion d'un certain nombre d'Occidentaux. Ce sont les mariages mixtes qui nécessitent la conversion parce qu'un homme non musulman ne peut pas épouser une musulmane s'il ne se convertit pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur ? J'oublie, mais en tout cas, ça c'est les... Et puis, le taux de natalité fort des familles musulmanes. Mais là, il ne faut pas non plus trop fantasmer. Parce que ce qu'on observe du point de vue sociologique, c'est que c'est vrai pour la première génération. Mais après, les enfants, ça coûte cher en Occident. Et les familles musulmanes, elles sont comme les autres, elles doivent payer à la fin du mois. Donc, forcément que le nombre d'enfants se réduit. Ils ont un peu plus d'enfants. Mais vu le pourcentage qu'ils représentent, ça ne peut pas tout à coup bouleverser l'équilibre démographique comme ça en quelques années. Néanmoins, il y a quand même un problème en Occident parce que des pays comme l'Allemagne ont une démographie misérable, au-dessous du renouvellement, au-dessous de 2,1. Et donc là, forcément que les peuples qui ont un taux de natalité plus fort, les immigrés qui ont un taux de natalité plus fort, évidemment, voient leur nombre grandir dans des pays comme l'Allemagne. Voilà. Je pense que là, on va s'arrêter avec cette partie historique. Maintenant, on va aborder la question de qu'est-ce que les musulmans croient et qu'est-ce qu'ils pratiquent. Alors, ils croient en Allah. Alors, oui, je ne peux pas entrer dans tous les détails de l'histoire parce que je ne les connais pas, mais d'abord, j'ai utilisé le terme de polythéisme, mais ce n'est pas le terme technique le plus exact. En fait, on devrait parler d'énothéisme. L'énothéisme, c'est comme la mythologie grecque ou romaine. Il y a un dieu principal, Jupiter ou Zeus pour les Grecs, et puis il y a des dieux un peu subalternes. Et Allah, c'était le dieu principal. Et Allah avait trois filles, Manat, Uzza et Alat, qui étaient des divinités vénérées par les musulmans. Par les musulmans, pardon, par les tribus bédouines. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque de Mohammed, il y avait des hanifs, des gens qui cherchaient le Dieu unique. À mon avis, là, il y a l'idée de Dieu unique, je pense qu'elle n'est pas totalement étrangère à l'esprit humain. Et puis en plus, ces gens voyageaient, hein. Ils étaient en contact avec le monothéisme hébreu. Il y avait des chrétiens aussi autour. Donc il y a des gens qui comprenaient qu'il y a quelque chose d'autre. Et ils étaient des chercheurs du Dieu unique. Alors, est-ce que Dieu a agi souverainement? Si on croit que Dieu est souverain, Dieu a œuvré. Dieu a œuvré, il a attiré les gens au Dieu unique. Malheureusement, Allah, le Dieu que Mohammed a présenté comme le Dieu unique, on verra tout à l'heure, il n'est pas tout à fait le Dieu des Hébreux. Il est un Dieu différent. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, qu'est-ce qu'Allah attend des hommes? Eh bien, ah non, c'est pas ça. Voilà, entre parenthèses, si vous allez dans une mosquée, vous allez voir ce signe. Ça, c'est le signe pour Allah. Vous voyez? Alors, Allah, qu'est-ce qu'il attend des hommes? Il attend que les hommes reconnaissent sa grandeur, sa puissance. C'est pour ça que les musulmans disent toujours « Allah Akbar! Allah Akbar! C'est le plus grand! » Voilà, parce qu'ils reconnaissent, ils disent, ils sont convaincus, Allah est le plus grand. Et par conséquent, l'homme devant ce Dieu qui est si grand, ben, il doit se soumettre. Islam, soumission, abandon à Dieu. Pour les musulmans, c'est par cet abandon à Dieu qu'on trouve la paix. Ce n'est pas complètement faux, hein. C'est quand on s'abandonne à Dieu qu'on trouve la paix. Simplement, il manque tellement de choses à cette affirmation qu'il n'arrive pas tout à fait à la paix que Jésus donne. Et la théologie islamique affirme que Allah donc est le seul vrai Dieu. C'est ce que la Shahada affirme. Et qu'il n'y en a pas d'autres en dehors de lui. Ils insistent beaucoup, la théologie islamique insiste beaucoup sur l'unité d'Allah. Il n'a pas d'associé, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il est séparé de tout ce qui a été créé. Ça, le Dieu que nous connaissons, c'est la même chose. Il est tout-puissant, il est omniscient. Il a, selon la tradition islamique, il a 99 noms qui le décrivent. Mais surtout, ce qu'il y a de troublant avec Allah, c'est que c'est un Dieu qui n'est pas lié par sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, le Dieu de la Bible, quand il dit une chose, il ne peut pas dire son contraire. Il est lié par sa parole. Dieu ne peut pas dire n'importe quoi. Il est lié par sa parole. Il ne peut pas dire aimez-vous les uns les autres et puis après dire non, 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 ça c'est plus d'actualité. Dieu est lié par sa parole parce qu'il est saint, parce que sa parole est parfaite. Et on trouve cette chose très curieuse dans l'islam que Allah n'est pas lié à sa parole. Il peut tromper les hommes. Il y a un passage du Coran où il dit, je pourrais retirer toute la révélation. Je vous l'ai donnée, je pourrais la reprendre, la retirer. Il est le Dieu du bien et du mal. Et ça, théologiquement, ça pose de sérieux problèmes. Ensuite, donc, les musulmans croient en Allah, ils croient aussi aux anges. Alors, il en existe une multitude. Il y a, entre parenthèses, quatre archanges. Gabriel, donc, qui est l'ange, l'intermédiaire des visions ou de la révélation. Il y a Michel, qui est l'ange, ou Michael, l'ange gardien, Israfil, celui qui annoncera le jugement dernier, et puis Israël, l'ange de la mort. Et puis il y a aussi Shaitan. Ça vous dit quelque chose, Shaitan? Ça vous rappelle quelque chose? Shaitan, c'est Satan. Shaitan, il croit, Shaitan, le diable, l'ange déchu. Il s'appelle aussi Iblis dans le Coran. Iblis, quand vous lisez le récit d'Adam et Ève, quand ils désobéissent à Dieu, c'est Iblis, l'ange, qui a été créé de feu, qui est plein d'orgueil, qui est mentionné. Et puis il y a deux anges, Munkar et Nakir, qui eux sont chargés de quizer les morts. Ils les quizent en leur disant, qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Dans quelle direction pries-tu? Puis là, il y a intérêt à avoir la bonne réponse. Et puis il y a aussi les djinns. Les djinns, ce sont des êtres spirituels entre les anges et les hommes. C'est un étage intermédiaire. Et il y a des djinns qui sont bons et des djinns qui sont méchants. Et ça, à mon avis, c'est une subsistance, une survivance de l'animisme. Parce que les djinns, dans l'animisme, on croit beaucoup aux esprits, on ne leur donne pas le nom de djinns, mais on croit beaucoup qu'il y a des esprits près d'un arbre, près d'une source, près d'un pont. S'il y a eu un accident, c'est le djinn, c'est l'esprit qui était fâché et qui a provoqué l'accident ou la maladie. Alors il y a des djinns dans l'islam. Et des gens très cultivés croient aux djinns. Hein. Il ne faut pas croire que c'est simplement une croyance populaire. Ils croient aussi aux livres, ce qu'ils appellent les livres d'Allah. Kutub Allah. Et dans l'islam, on affirme qu'il y a plusieurs livres donnés par Allah. Il y a les feuilles d'Abraham qui ont été égarées, mais il y a surtout la Torah de Moïse, les psaumes, les évangiles de Jésus, et puis bien sûr le Coran. Malheureusement, dans l'opinion musulmane populaire, tout ce qui est Ancien Testament a été falsifié. Ancien et Nouveau Testament a été falsifié, mais on reviendra sur cette question plus tard. Seul le Coran est la révélation ultime d'Allah, c'est la révélation authentique. Par conséquent, cette révélation est supérieure à toutes les autres. Dans l'esprit des musulmans, ça ne fait aucun doute. Le Coran est au-dessus de tous les autres livres. Ils croient également aux prophètes. Alors, on dit là, selon un hadith. Un hadith, c'est une tradition orale. C'est une parole qu'aurait prononcée Mohammed et qui a été rapportée par des témoins. Alors, selon un hadith, il y aurait 124 000 prophètes. Probablement qu'il ne faut pas prendre le chiffre ici à la lettre. C'est simplement pour dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup, comme on parle de myriades dans la Bible. Il y a beaucoup de prophètes. Le Coran en cite 25, dont 21 sont issus de la Bible. Et les musulmans différencient deux types de prophètes. Il y a les nabis, c'est en quelque sorte les prophètes mineurs qui apportent une révélation. Mais il y a surtout les rasouls. Ceux qui sont envoyés, qui apportent un livre. Et bien sûr que Mohammed est le dernier des rasouls. Jésus est aussi un rasoul. Mais Mohammed est venu après, donc il est plus grand. Il croit également au dernier jour, jugement dernier. Il croit à la résurrection. Parce que pour qu'il y ait jugement, il faut qu'il y ait résurrection. Jésus viendra. Il reviendra dans le monde pour juger ses ennemis. Et puis, là, c'est une nouvelle magnifique pour les musulmans. Jésus va revenir, il va juger ses ennemis. Et puis, devinez quoi? Il va imposer l'islam au monde entier. Et ensuite, il mourra comme un simple prophète qu'on enterrera avec beaucoup d'honneur à côté de la tombe de Mohammed à Médine. On ne peut pas honorer mieux Jésus. Et puis, il croit aussi à la prédestination. Oui, exact. Oui, j'ai pas mentionné ça. Oui, c'est vrai, tout le monde va passer par l'enfer. C'est une sorte de notion de purgatoire. Et puis après, j'ai discuté une fois avec un imam algérien, mais un homme qui travaillait sur un doctorat, pas dans le domaine de la religion, hein. Et puis, dans l'esprit musulman, les non-musulmans vont en enfer. Puis il m'a dit, mais quand même, des gens comme Mère Teresa, Dieu ne va pas la laisser en enfer. Parce qu'elle a fait beaucoup de bien. Elle ne peut pas laisser en enfer. Et ça combine la notion de purgatoire et puis la notion très islamique de salut par les œuvres. Ces gens ont fait tellement de bonnes œuvres, comment est-ce que Dieu peut les laisser en enfer? C'est incompatible. Dieu ne peut pas faire ça. Vous voyez? Donc il y a cette tension dans leur cœur. Entre parenthèses, quand vous lisez ce que le Coran dit du paradis, vous dites, ça c'est un paradis pour les hommes. Hein. C'est 70 houris, des femmes qui ont été créées pour le paradis, qui n'ont jamais vécu sur terre, qui n'ont pas été déflorées, c'est pour ces braves musulmans qui ont été fidèles jusqu'au bout et à qui Dieu a voulu accorder le salut. Mais il est quand même question du salut des femmes. Il y aura des femmes au paradis. Mais un imam, lors d'une visite dans une mosquée à Lausanne, disait, oui, les hommes pourront avoir autant de femmes qu'ils voudront, en tout cas jusqu'à 70. Puis alors, bien sûr, la question se pose. Et puis les femmes? Ben, les femmes, elles seront mariées à un seul homme, elles seront parfaitement satisfaites. Il y a aussi des éphèbes, hein. Il y a des éphèbes au paradis. Mais on ne va pas partir là-dessus. Il y a aussi la question de la prédestination. Donc, ça, c'est une question très, très importante dans l'islam. Quelle est la mesure de volonté de l'homme? Quelle est la liberté de l'homme au regard du destin fixé par Dieu à chacun? Ça, c'est une question qui a été très débattue pendant les 3 premiers siècles de l'islam. Parce que le Coran enseigne que Dieu a fixé tous les événements du monde. Allah égare et dirige qui il veut. Vous voyez, Dieu est absolument souverain, il dirige votre vie, il vous envoie en enfer, il vous envoie en paradis, il fait ce qu'il veut. Même si vous avez fait de bonnes œuvres, il peut décider de vous envoyer au paradis. Je dis mauvaises œuvres, hop, moi je décide que tu vas au paradis. C'est un Dieu un peu, comment est-ce qu'on peut dire ça? Oui, vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec Allah. On ne sait même pas comment être bien avec lui. Un Dieu pas juste, oui, mais parce qu'il n'est pas lié, il n'est pas lié à une parole de justice. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est une hyper, comment dire ça, une emphase extrême sur la souveraineté de Dieu. Dieu est si souverain qu'il fait ce qu'il veut. Et même il est libre vis-à-vis de sa propre parole. Alors, on a encore 15 minutes. Courage, on y arrive. On va parler maintenant des obligations, c'est-à-dire ce qu'on appelle les piliers de l'islam. Vous avez besoin de bouger un peu. Ça va? Les 5 piliers. Alors, il y a 5 obligations religieuses à laquelle l'islam considère que ces 5 obligations religieuses sont comme, vous savez, quand vous montez un escalier, vous avez une rampe. Eh bien, ces obligations religieuses, elles sont comme une main courante ou comme une corde à laquelle les musulmans se tiennent pour ne pas se perdre. Et la première de ces obligations, c'est la confession de foi, ce qui s'appelle la shahada. Vous avez là la liste des 5, la shahada, la prière, l'impôt religieux, le jeûne et le pèlerinage. On va vite prendre ça l'un après les autres. La confession de foi. La confession de foi, c'est il n'y a de Dieu, ou il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed et son prophète. Entre parenthèses, certains pensent que le mot shahada, ça vient de shema, le terme hébreu. Vous savez, Deutéronome 6, sauf erreur, ô Israël, il n'y a de Dieu. je l'ai pas mémorisé, mais il semblerait qu'il y ait une parenté entre les deux choses. C'est une déclaration de foi, c'est une confession, c'est la confession de foi fondamentale. Et si vous voulez devenir musulman, c'est la première chose à faire. J'ai vu la conversion sur un clip vidéo, hein, dans une mosquée en Angleterre, à Londres peut-être, un Britannique qui s'est converti. L'imam a dit, notre frère John veut déclarer sa foi en Allah. Il a fait une petite introduction. Après, l'ami britannique a pris le micro, puis il a récité la shahada devant témoin. Et donc, après, il a été considéré comme musulman, appartenant à la Umma, la communauté des croyants musulmans. Oui, donc c'est très simple. Et les gens zélés, ils veulent vous amener à dire la shahada. Parce que s'ils font cela, ils gagnent des bons points. Ils gagnent des bons points. Vous savez, l'imam algérien dont j'ai parlé il y a 5 minutes, je l'ai rencontré 3 fois 2 heures. J'avais des tas de questions sur l'islam à lui poser. À la fin de la première, il a dit, « Ah, vraiment, je suis content d'avoir parlé de Allah avec toi. » Parce que ça me donne des asenates. Je dis, des quoi? Asenates? Des bons points. C'est une bonne œuvre. Je parle de Allah, c'est une bonne œuvre. Dieu, il va s'en souvenir. C'est sur mon compte. C'est crédité. C'est une religion de bonnes œuvres. Tout est fait pour gagner des bons points. L'hospitalité, les prières, le pèlerinage, l'aumône, tout est comptabilisé. Donc, et puis la shahada, elle est répétée constamment par les musulmans dans leur temps de prière. Constamment, ils la répètent. Ensuite, vous avez la prière, la salat. Comment est-ce que vous envisagez la prière vous-même? C'est quoi la prière pour vous? Dans votre expérience chrétienne. Je prie, je parle à Dieu. Parce que Jésus m'a ouvert accès à Dieu. Je peux lui dire n'importe quoi. Je peux prier à vélo, dans mon lit, avec d'autres, à l'église, en dehors de l'église. Totale liberté. Mais la salat, c'est pas du tout ça. La salat, c'est une forme de prière dont chorégraphiée en quelque sorte. Et très précisément. Et si vous ne respectez pas la chorégraphie, votre prière n'est pas valable. Vous perdez le bon point. Si vous arrivez en retard, ce n'est pas valable. Et pendant la salat, donc, ils répètent la shahada, ils peuvent répéter des passages du Coran qu'ils ont mémorisés, ils peuvent faire connaître des roquettes très brièvement. Mais l'idée, c'est être là, tous, en même temps, en faisant la même chose, à la même heure, au même endroit. C'est une expérience communautaire et on honore Dieu et Dieu nous donne, reconnaît notre mérite. Ça ne veut pas dire que la prière spontanée n'existe pas en islam. Ils appellent la prière spontanée la doua, mais ce n'est pas méritoire. Vous pouvez faire autant de doua que vous voulez, tant mieux, c'est bénéfice pour vous, mais au compteur, ça ne marque rien du tout. Et quand vous faites la prière, il y a toute la partie de purification. Vous avez déjà vu sûrement à la télé, si vous ne les avez pas vus en réalité, comment les gens font leurs ablutions. Donc, si vous entrez dans une mosquée, il y a un endroit qui est réservé à cela. Il y a des petits bidets qui sont proches du sol. Vous pouvez prendre l'eau, donc ils se lavent la face, ils se rincent la bouche, le nez, les oreilles 3 fois. Ils se mettent de l'eau dans les cheveux. Ils se lavent les mains jusqu'au coude, ils se lavent les pieds jusqu'aux chevilles, etc. Et donc, ils se purifient rituellement en vue de la prière. Mais, comme il s'agit de prière rituelle, ça veut dire qu'il y a des souillures, il y a des choses qui souillent. Aller aux toilettes, ça souille. Tout ce qui passe par les sphincters, ou si vous vomissez, ça vous souille. ou contact avec des objets salissants, ça vous souille. Donc il faut faire ces ablutions. Et puis il y a des souillures majeures, ce que les musulmans appellent les souillures majeures, les rêves érotiques, les règles chez les femmes, les émissions de sperme chez les hommes. Mais vous savez quoi? C'est Lévitique, parce que Lévitique dit exactement ça. Et Lévitique 15-18 dit « Quand un homme et une femme ont eu des relations sexuelles, ils se baigneront tous deux dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. » Ça vous dit le lien qu'il y a entre l'islam et le judaïsme. Pas directement à travers l'Ancien Testament, mais à travers toutes les traditions développées par le judaïsme. Ensuite, il y a l'impôt rituel, impôt religieux, la zakat. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne dans la Bible, dans l'Église? On enseigne que la libéralité est libre, mais que quand même, il faudrait donner les 10%. Je blague un peu, mais... Non, mais vous êtes libre de donner les 10%, et même beaucoup plus. Ça, c'est le message qu'on donne de l'estrade. Mais c'est un beau message. Ça vaut le coup de donner la dîme. Ouais, c'est une manière superbe d'honorer Dieu et de manifester notre confiance en Dieu. Les musulmans, la zakat, c'est normalement 2,5%. Sauf si tout à coup, vous découvrez un trésor, vous devenez millionnaire, et puis là, vous pouvez donner sans compter. Mais enfin, l'impôt rituel, c'est 2,5%. Voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très connu, le jeûne. Alors le jeûne, il se pratique pendant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier musulman. Il est obligatoire pour tous les musulmans. Vous ne pouvez pas vous balader dans un pays musulman en mangeant une grappe de raisin à midi, hein, pendant le jeûne. Vous êtes mort. Il y a des gens qui vont vous tomber dessus. Ça va les mettre en rage parce qu'eux, ils souffrent. En principe, ils peuvent ni boire, ni manger, ni avaler leur salive, parce qu'ils sont toujours en train de cracher, ni fumer, ni avoir de relations sexuelles. C'est vraiment service minimum, hein, pendant la journée. Puis s'ils vous voient manger, ils ont la rage. J'ai eu cette expérience, j'étais avec un Algérien converti en Algérie, puis lui disait, moi je suis chrétien. Hein. Il était un peu brave. Puis c'était la fin de la journée, mais pas encore le coucher du soleil. Puis on mangeait du raisin. Il y a un gars, un grand gars, qui est venu vers lui. Il dit, est-ce que tu es musulman, toi? Pourquoi tu manges du raisin maintenant? C'était sérieux, hein? Il aurait pu lui flanquer une raclée, c'était la même chose. Donc, voilà, pour eux, c'est une offense faite à Dieu. C'est une offense faite à Dieu et c'est un très mauvais exemple pour les autres. Mais quand le soleil est couché, alors là, c'est no limits. Et lors d'une visite à une mosquée turque dans la région de Lausanne, l'imam lui-même, il s'est dit, « Ah, nous avons des gens qui grossissent pendant le Ramadan. » C'était trop bon, le repas du soir. Donc, vous voyez, ça met les gens dans des telles contradictions. Et puis, pendant la nuit du Ramadan, il y a une nuit très spéciale qui s'appelle la nuit du destin, qui est la 27e nuit du Ramadan, qui est célébrée parce que selon la tradition, c'est la nuit au cours de laquelle Mohammed a reçu les premiers versets du Coran. Et là, les musulmans se disent, là, tout est possible. Si on passe toute la nuit en prière, on peut voir des anges. Dieu peut intervenir, Allah peut intervenir surnaturellement, mais surtout c'est des visions, des trucs de ce type-là auxquels ils aspirent. Et surtout, si on est pieux pendant cette nuit-là, Allah nous pardonne nos péchés, nous purifie de nos péchés. Et si on observe le Ramadan scrupuleusement, Allah va aussi nous pardonner nos péchés. Si on fait le pèlerinage, c'est le prochain sujet. si on fait le pèlerinage dans un bon esprit, et alors le top, vous savez ce que c'est? Si vous mourrez à la Mecque pendant le pèlerinage, vous allez droit au paradis. Simple course. C'est le top. Vous voyez, l'aspiration, tout est fondé sur les œuvres. Je dois faire la bonne chose au bon moment, au bon endroit, et ça va me gagner des bons points. Le pèlerinage. Tous les musulmans qui en ont les moyens doivent pouvoir faire le pèlerinage une fois dans leur vie. Et ça, c'est un pèlerinage, il a lieu, c'est le 12e mois du calendrier musulman. Et il y a plusieurs rites à respecter. Ils doivent faire différentes choses. Évidemment, ils doivent faire la circonvolution autour de la Kaaba. 7 fois, ils doivent tourner. Ça, entre parenthèses, c'est un rite païen. Ça existait avant l'islam. Ils ont maintenu. Une autre survivance du paganisme, c'est la pierre noire, qui est à l'angle sud-est ou sud-ouest de la Kaaba. Il y a une grosse pierre noire qui est enchâssée dans une... Comment est-ce qu'on dit ça? Une gangue en argent. Et chaque musulman souhaite embrasser cette pierre noire. Il y a une tradition qui dit, cette pierre, elle était blanche avant. Mais à force d'être baisée par des hommes pécheurs, elle est devenue noire. Vous voyez, il y a la notion de péché, il y a la notion de... Il y a un problème en nous. Il y a quelque chose qui cloche en nous. Mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair pour eux parce qu'ils ont en réalité pas, ils n'ont pas de notion de péché originel. Et puis, dernier point, mais qui n'est plus mentionné dans les piliers de l'islam, c'est la guerre sainte, le djihad. Alors, le terme djihad, c'est un terme très chaud, parce que c'est un terme qui fait très peur en Occident. Parce que les djihadistes, c'est qui? C'est les gens qui lancent un avion contre les tours jumelles à New York, c'est les gens qui tirent à la Kalachnikov sur tous ceux qui sont jugés impurs, c'est les gens qu'on décapite, etc. Ça fait peur. Mais pour les musulmans, ce djihad, le djihad armé, en principe ça devrait être un djihad défensif seulement, lorsque un territoire musulman est menacé par une armée ennemie. On ne fait pas le djihad, on ne prend pas les armes normalement pour imposer l'islam quelque part, dans la théorie en tout cas, hein. On ne fait pas ça. Mais le djihad, ça a aussi un sens beaucoup plus mystique, ce qui est appelé le grand djihad. C'est le djihad sur soi-même, le travail sur soi-même, les efforts qu'on fait pour devenir un meilleur musulman. Un musulman qui a davantage de piété, qui est plus soumis à Dieu. Mais ce terme djihad, il a aussi été utilisé en quelque sorte détourné de son sens parce que certains comme Habib Bourguiba en Tunisie, il a parlé de djihad social. Il a dit la cause du progrès national est une cause suffisamment grande pour qu'on considère que ça fait partie du djihad. Même Tariq Ramadan, il utilise aussi, il fait allusion à cette notion du djihad, le djihad social. Il faut s'occuper des pauvres, il faut lutter contre les injustices, etc. C'est la part du musulman à la société présente. Et il y a aussi peut-être des termes dont vous avez déjà entendu parler, Dar al-Islam. Dar al-Islam, ça veut dire c'est la maison de l'islam. Qu'est-ce que c'est que la maison de l'islam? C'est les lieux, les territoires. Oups, c'est fini. S'arrête. Ok, je termine avec ça. Dar al-Islam, ce sont les territoires où l'islam est établi comme religion. Mais il y a aussi Dar al-Harb, la maison de la guerre. C'est tous les autres territoires. Où en principe, l'islam devrait être introduit, imposé, etc. Et puis il y a une situation intermédiaire qui est Dar al-Sul. C'est la situation dans laquelle se trouvent les musulmans en Occident. Ils sont dans Dar al-Sul. C'est-à-dire que tant qu'on leur donne la liberté de pratiquer leur religion, on est en paix. On ne fait pas la guerre. Mais si on vient nous interdire de pratiquer notre religion, là, on va faire la guerre. Voilà pour cette première partie. Vous avez besoin de vous détendre. Oui, c'est juste. Mais vous pouvez vous mettre debout, si vous voulez, pour poser les questions. Questions de clarification, d'approfondissement. Oui. Oui. Alors, oui, le port du voile, c'est une question beaucoup plus complexe que ça n'a l'air. Et c'est un marqueur, pour une part, en tout cas en Occident, c'est un marqueur identitaire pour certaines personnes. C'est-à-dire, il y a des gens qui souffrent. Être un immigré quelque part, c'est douloureux. Être étranger dans un pays, c'est quelque chose de douloureux. Et les gens qui viennent d'une région musulmane, ils ressentent cette souffrance, d'autant plus qu'ils sont dans un territoire non musulman. Et certains, surtout de la deuxième et troisième génération, les petites jeunes filles qui vont au lycée, etc., ou à l'uni, et qui tout à coup se disent « moi, je vais affirmer mon islamité ». Et une manière très simple de le faire, c'est de porter le voile. Comme ça, les gens ils vont voir clairement où je me tiens. Mais, et beaucoup de femmes prennent, sont pas contraintes par leur mari. Certaines le sont, d'autres, c'est une initiative personnelle. Elles sont dans une démarche personnelle qui fait qu'à un moment de leur vie, elles veulent dire, ben écoutez, que ça vous plaise ou pas, moi je suis musulmane. Et je vais vous le faire savoir. Et puis aussi, dans la communauté islamique, ça leur donne des avantages énormes. Parce qu'une femme qui porte le voile, tout à coup, elle inspire le respect. Et si cette femme, elle connaît le Coran, encore plus. Parce que les parents, ils connaissent généralement rien au Coran. Et si tout à coup, la Benjamine dans la famille, elle dit, oui, ben, Mohamed ou le Coran, il dit ceci et cela. Ouh, tout à coup, on respecte la personne. Et vous savez, les femmes sont maltraitées dans la communauté islamique, souvent. Donc, adopter, prendre un angle religieux, c'est aussi une manière de se protéger et d'établir sa dignité. Parce que les hommes peuvent pas dire, mais toi, t'es rien du tout, t'es comme les filles en France qui portent la mini-jupe et tu ne respectes même plus tes parents, tu ne respectes pas ta religion. Il n'y a plus ce discours, c'est terminé. Et les femmes peuvent faire des études, elles ont le respect de la communauté, elles deviennent presque des porte-drapeaux de la communauté. Les personnes dont les gens sont le plus fiers. Et si vous portez la burqa, c'est le top dans certaines. Parce que là, les gens disent « Oh, ben toi, t'es vraiment consacré à Dieu. » On va prendre une petite pause. Oui, oui. Malheureusement, la réalité est compliquée. Et en Europe, on a ce qu'on appelle la liberté religieuse et les droits de l'homme. Et donc, quelqu'un qui veut porter le voile ou le turban s'il est sikh, eh bien, nos traditions civiques et politiques disent « cette personne a le droit ». Ça, c'est compliqué simplement parce que ces gens deviennent des symboles du djihadisme. C'est pour ça que ça, il y a une telle levée de bouclier. Non, pas en France. Mais la police a bien des problèmes à le faire appliquer. Bon, quand il s'agit de touristes, comme c'est arrivé comment ça s'appelle, à Paris, il y avait une touriste du Golfe qui était totalement voilée et puis on est venu la prier de quitter les lieux. Mais les gens qui vivent en France, il y a beaucoup de femmes qui elles prennent amende sur amende quand la police intervient, mais je pense que les policiers ils sont aussi un peu gênés. Voilà, il faut vraiment qu'on prenne une pause, sinon vous n'allez pas tenir le coup, hein. On a encore du chemin à faire.